Écho d'économie.
Il se tient depuis le 14 novembre jusqu'au 20 novembre à Uvira, dans le sud Kivu, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Le ministre du Développement rural ainsi que celui de l'Agriculture ont pris part ce jeudi à l'exposition des œuvres entrepreneuriales des partenaires du programme intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs. Difficulté de voyager pour des passagers de la compagnie d'aviation CAA. Vous entendrez dans ce magazine le ras-le-bol d'un client bloqué à Kinshasa depuis 5 jours. Bienvenue à tous. Au Sud Kivu, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, célébrée du 14 novembre au 20 novembre prochain, est à sa troisième journée. C'est jeudi dans la ville et les territoires d'Uvira. Le ministre d'État en charge du développement rural ainsi que son collègue de l'agriculture ont pris part, c'est jeudi, à Bouéguéra, dans la plaine de la Ruzizi, à l'exposition des œuvres entrepreneuriales des partenaires de Picagel, entendez, programme intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs. Les jeunes d'Uvira, ayant reçu une incubation de l'organisation ITA, ont pris part à cette activité de Bouéguéra. Fiston Goma, Mayabala.
Bouéguéra, le chef-lieu du groupement de Kakamba dans la plaine de la Ruzizi, a été honoré par la présence de deux ministres nationaux venus de Kinshasa. Les jeunes formés pendant 7 mois avec l'accompagnement technique et financier de l'ITA ont saisi cette occasion pour exposer et vendre plusieurs produits. Sur les différents étalages, on pouvait observer la farine de certains produits agricoles transformés à base de patates douces, de manioc et de maïs. Des plantes médicinales, dont l'artémisia annua, sont cultivées dans la région pour éradiquer la malaria et d'autres maladies. Les visiteurs ont passé en revue les différents stands et reçu des explications sur les activités d'élevage des poules et des canards effectuées par les jeunes. Pele Loamisi est coordonnateur de l'ONG CGDR et président de la composante jeune de la société civile Force Vive d'Uvira.
Les activités entrepreneuriales sont utiles pour les jeunes parce que la jeunesse d'aujourd'hui, au moins en majorité, n'ont pas l'emploi. Et ceux qui sont en train d'entreprendre créent leur emploi qui leur permettent au moins d'avoir quelque chose qui contribue dans leurs besoins. Ça contribue à la cohésion parce que les jeunes entrepreneurs ne sont pas motivés à adhérer dans des mouvements, des divisions, mouvements, des coupeurs de routes et tout consort.
Cette activité de Bouéguéra coïncide avec la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat lancée mardi dernier à la prison urbaine Mulungé d'Uvira. Ici, les jeunes d'Uvira ont remis un lot de semences, de légumes aux détenus de la prison. Des agronomes ont accompagné ces jeunes pour apprendre aux prisonniers les nouvelles techniques de culture des légumes dans le jardin potager de la prison. L'objectif de ces projets est de contribuer au changement des régimes alimentaires et éviter la malnutrition.
Construction de la route Mbujimayi-Kananga, la Banque africaine d'import-export est sur le point d'accorder un financement de 200 millions de dollars américains pour les travaux de cette route longue de 188 kilomètres. L'accord de principe a été signé au Caire. C'était en marge de la foire commerciale intra-africaine IATF qui s'est tenue dans la capitale égyptienne du 9 au 15 novembre courant. Précision de Cynthia Bachizina Bizana.
Cet accord tombe à point nommé car les travaux de construction de cette routes sont à l'arrêt pour le moment. C'est donc un ouf de soulagement pour les parties impliquées. L'approbation de la demande de financement de 200 millions de dollars américains émise par le FPI pourra ainsi accélérer la fin des travaux. Pour cela, il faut attendre le mois de décembre, le temps qu'une équipe de l'Afriximbank se rende sur terrain d'ici fin novembre. Si la visite des experts de cette banque s'avère concluante, elle marquera l'approbation pour le décaissement de ces 200 millions de dollars américains. Bertin Moudimou Tshisekedi, le directeur général du FPI.
Vous savez que quand une banque finance, elle a des conditions qu'elle pose. Nous venons de passer une étape de ces conditions. Les discussions qui vont suivre par la suite, c'est-à-dire les experts de la principale banque vont venir au Congo pour échanger avec nous sur la dernière phase de la conclusion du marché. Et nous ont dit, à la fin du mois de décembre, en tout cas, la banque va organiser une séance de validation et de l'acceptation de notre financement. Et donc, nous devons en tout cas tenir peut-être encore quelques 2 ou 3 mois pour que finalement le financement soit effectif par un premier.
Le volet financier sur le point d'être réglé, quelques soucis logistiques demeurent. C'est notamment une lenteur dans le processus de dédouanement de matériel. Précisons par ailleurs que le financement de cette route par le FPI rentre dans les prérogatives de cette institution, qui a également pour rôle de financer les projets d'infrastructures qui visent à renforcer le tissu industriel dans le pays.
Parlons à présent des difficultés de voyager pour des passagers de la compagnie d'aviation CAA. Écoutez, cette passagère en partance pour Goma, bloquée depuis au moins 5 jours à Kinshasa. Selon elle, c'est depuis plus d'une semaine qu'elle a acheté son billet d'avion et ne trouve pas d'appareil pour la ramener à Goma. Elle parle d'un calvaire. Elle est jointe depuis l'aéroport de Njili par Denise Loukesso.
Nous souffrons ici à Kinshasa. C'est depuis le jeudi dernier que nous avons acheté des billets. On nous dit d'être à l'aéroport très tôt le matin. Une fois à l'aéroport, on nous retourne. Et c'est chaque jour comme ça. C'est vers 9h qu'on nous dit de rentrer et revenir demain. Malheureusement, encore aujourd'hui, on nous a rassuré de venir très tôt. À 4h du matin, on était déjà prêts. Maintenant là, ici, c'est un débordement comme pas possible. On a embarqué ceux qui avaient des billets du 15. Et nous qui avons les billets du 16, donc aujourd'hui, on nous dit d'attendre jusqu'à 14h. Voilà, on vient de nous dire encore c'est impossible pour aujourd'hui et il faut rentrer encore à la maison. Il y a des gens qui nous disent pour que vous soyez alignés sur la liste, il faut corrompre. On ne sait même pas s'il faut corrompre avec combien. Ça devient tellement très compliqué.
Et pendant ce temps, Congo Airways annonce pour bientôt la reprise de ses vols sans préciser de date. Dans un communiqué daté du 15 novembre 2023, la compagnie aérienne remercie le président de la République qui s'est impliqué pour cette reprise, mais aussi les parlementaires, les actionnaires ainsi que son personnel pour les efforts consentis en faveur de cette relance des activités de Congo Airways. Au Nord Kivu, une hausse sensible du prix du riz produit localement et importé est observée depuis quelques jours dans les villes de Beni et Butembo. La rareté sur le marché local est à la base de cette situation. Grévis Salomon pour les détails.
Le kilo du riz produit localement qui se vendait à 2500 safras coûte actuellement 3000 francs congolais. Le kilo du riz importé qui coûtait 2000 des safras il y a un mois est vendu également à 3000 francs congolais. C'est le plusieurs vendeurs rencontrés au marché central le Kilokwa de Beni, la rareté du riz sur le marché est à la base de cette situation. L'une d'eux témoigne.
Le riz n'est pas sur le marché, raison pour laquelle nous n'y gagnons plus en termes de bénéfices. Même le riz importé, c'est pareil. L'argent n'y circule plus. C'est pourquoi certains ont même fermé leur dépôt. Nous ne savons plus quoi faire car après avoir écoulé un sac, on sent qu'on n'a rien gagné.
La rareté du riz produit localement est justifiée par l'insécurité dans des zones culturelles, ce qui empêche la production et le ravitaillement de ces produits comme le témoignent ces vendeurs.
Là-haut, c'est ravitaillé, il y a de la sécurité actuellement. Plusieurs agriculteurs ont déjà abandonné leurs champs. Que les autorités nous aident à ramener la paix dans ces zones, car lorsqu'il y aura le retour des agriculteurs dans les champs, nous n'aurons plus de difficultés.
Actuellement, la grande quantité du riz disponible sur le marché est importé à partir de l'Ouganda.
Au sud Kivu, la population de Lugusha, en territoire de Mwenga, s'inquiète du retour en force des engins d'exploitation industrielle des minerais de l'or dans cette partie sans respect des normes du pays. C'est notamment des engins de sociétés minières étrangères qui refusent de signer un cahier de charge avec les communautés riveraines des sites miniers de Lugusha. Cette population exige la suspension des travaux d'exploitation de l'or en cours et appelle au respect des textes en vigueur. Désiré Lumongue, ressortissant de Mwenga, est au micro d'Emmanuel Elamejua Kabedi.
La situation est très déplorable parce que encore 10 autres engins, même plus, des sociétés illicites minières ont traversé la rivière Elila pour aller envahir Lugusha. C'est une chose que nous dénonçons et nous ne comprenons pas comment il y aura des engins à Lugusha et dans tout Mwenga alors que la route est impraticable.
Que réclame la population de Mwenga? Les minéraux, on doit quand même les exploiter. La population réclame quoi?
Les minéraux, on doit les exploiter, mais dans l'ordre. Pour l'instant, la population réclame qu'il y ait suspension de tous les travaux, qu'on suspende les travaux de tous les exploitants miniers qui se trouvent à Lugusha et les coopératives sans exception, pour qu'on y mette clair et que la population puisse trouver son compte, parce qu'avec ce désordre-là, la population sera encore meurtrie et sera délaissée et rien ne sera réalisé pour l'intérêt de cette communauté du bassin de Lila et du chefferie de Wamuzimu et de Mwenga en général.
Pourquoi vous les appelez illicites alors qu'ils ont des documents?
Ils n'ont pas de documents, ce sont des exploitants illicites. Ils ont même été listés et dénoncés par une commission de l'Assemblée nationale. Ce sont les mêmes sociétés qui continuent les mêmes opérations. Et donc, ils sont reconnus illicites par une commission d'enquête et le rapport a été diffusé. Et donc, ils sont illicites, c'est établi. Et nous, comme communauté, nous n'acceptons pas et nous ne sommes pas d'accord avec l'exploitation illicite des minéraux en territoire de Mwenga parce que cela va à l'encontre de toute la réglementation minière établie dans notre pays.
Notez que la justice militaire du Sud Kivu reconnaît avoir fait une mise en garde sévère à l'endroit de tout militaire des FARDC qui se trouverait dans les sites miniers sans autorisation.
Écho d'économie.
Notre invitée, c'est Madame Zouzou Ndiangou, présidente de la coopérative minière Ukingo, installée à Kabaré. Les acteurs miniers membres des coopératives minières sont sensibilisés à la lutte contre la fraude et la corruption. Ils étaient réunis ce jeudi dans un atelier organisé par la Fédération des coopératives minières du Congo, FECOMICO. L'objectif est d'assainir le secteur minier au Sud Kivu en luttant contre la fraude et la corruption dans la chaîne d'approvisionnement des minerais. Quelles sont les stratégies de lutte contre la fraude et corruption dans le secteur minier? Réponse dans cet entretien avec Madame Zouzou Ndiangou et son entretien avec Emmanuel Elamejo Akabeti.
Bien, bonjour Madame.
Bonjour Monsieur.
Comment l'idée vous était venue de présider une coopérative minière, Madame?
Là, c'est vrai, c'était arrivé quand on a vu qu'il y avait juste un boom d'or dans Kabaré. Parce que dans Kabaré, il n'y avait pas d'exploitation quelconque. L'exploitation minière artisanale, c'est à notre niveau que nous sommes dit que c'est mieux de mettre le tout en ordre, essayer de regrouper les creuseurs au sein de la coopérative, juste canaliser la production, donc juste pour voir comment quand même mettre de l'ordre dans l'exploitation minière artisanale. Étant donné que les creuseurs étaient en train de travailler en solo, sans travailler vraiment même le niveau provincial, national même, donc au niveau de l'État, on était en train de perdre même l'organisation n'était pas vraiment en bon et due forme. Alors, en créant quand même la coopérative, nous avons su qu'il y a le code minier, le règlement minier. Là, on a essayé de recadrer le tout jusqu'en ce moment.
Vous encadrez combien de creuseurs artisanaux à ce jour?
Vraiment, nous avons commencé avec 1500 creuseurs identifiés. On a payé toutes les taxes, on a payé les cartes des creuseurs pour les exploitants. Et le tout, c'était dans les trésors publics de notre pays.
Mais aujourd'hui, avec la Fédération des coopératives minières FECOMICO, on parle de phénomène, lutte contre le phénomène de la fraude et de la corruption dans le secteur minier. Qu'est-ce que vous avez retenu de ça?
Personnellement, nous savons très bien que la RDC, c'est vraiment un scandale géologique. Dans la RDC, c'est plein de minéraux, mais nous trouvons vraiment qu'on n'arrive pas à maîtriser très bien ce qu'il faut faire. Le tout se trouve dans la loi. L'État a déjà fait des mécanismes dans toutes les manières, mais c'est vraiment très difficile. Mais quand même, au niveau du Sud Kivu, d'abord en particulier, c'est vrai, nous avons trouvé vraiment que la fraude et la corruption, c'est quelque chose qui est vraiment l'apanage de tout le monde. Mais quand même, on ne peut pas arrêter la fraude, mais on doit lutter à diminuer sensiblement cette fraude-là. Et là, juste s'impliquer, essayer de conscientiser tout le monde, parce que ce n'est pas seulement l'État, mais il faut tout simplement que tout le monde participe. Là, il faut une très grande sensibilisation, essayer de montrer déjà les gens, on essaie de recourir même au niveau des familles, commencer déjà à éduquer les gens comment vivre dans bonnes mœurs. Et là, on va lutter contre la fraude et la corruption. Et là, ça aide encore beaucoup plus à rendre cette sensibilisation parce que tout le monde doit lutter contre la fraude et la corruption au niveau du secteur minier.
Et c'est ce que vous faites au niveau de votre coopérative?
Oui, parce qu'au niveau de notre coopérative, c'est vrai. Quand on essaie d'identifier d'abord tous les exploitants miniers artisanaux au sein de la coopérative, là, on essaie d'abord de mettre tout le monde en ordre, on essaie de recadrer le tout, et là, on se dit que ici, il faut quand même essayer de faire des parades régulièrement, essayer de montrer à chacun que nous devons être sensibilisés, nous devons lutter contre la fraude. Et c'est comme ça qu'on est en train de progresser, mollo mollo, jusqu'en ce moment. C'est vrai, c'était des étapes et c'était pas facile. Parce qu'actuellement, nous sommes en mesure de tracer l'or et de le mettre jusque dans le sachet inviolable. Mettre de l'or dans le sachet inviolable avec l'initiative de la traçabilité de l'or artisanal, donc le sachet Itoa, ça c'est déjà quand même quelque chose à louer. Okay. Et quand on trouve déjà qu'au niveau du Sud Kivu, on est parvenu quand même à centraliser toute la production au niveau du Sud Kivu et essayer de voir comment créer d'abord un grand comptoir juste pour capitaliser le tout, là, quand même, c'est quelque chose à faire.
Ce sont vos efforts, alors. Oui, madame, donc, dans le travail que vous faites, vous rencontrez beaucoup de défis, c'est ça? C'est parmi lesquels, par exemple?
Oui, par rapport à la fraude minière et la corruption, étant donné que la coopérative n'a pas assez de moyens pour essayer de capitaliser, donc de centraliser la production. Parce que c'est la coopérative qui doit essayer de centraliser cette production, donc financer les puits, essayer de payer tout ce qui se fait au niveau du creusage. Et là, quand la coopérative essaie de faire tous ces travaux-là, lors de la production, c'est la coopérative qui va centraliser cette production sans faille jusqu'au niveau du comptoir et essayer de vendre. Et là, directement, les bénéfices, ça va encore revenir sur les membres de la coopérative, les exploitants miniers artisanaux qui travaillent au sein de cette coopérative. Mais étant donné que jusque-là, presque toutes les coopératives, je dirais bien toutes les coopératives ont ce problème-là. Toutes les coopératives ont un problème de moyens. Si on a vraiment des moyens, vraiment, on va voir que cette lutte-là contre la fraude minière, ça sera vraiment diminué efficacement.
Mais vous êtes dans une fédération des coopératives minières. Qu'est-ce que vous attendez de cette FECOMICO, vous comme coopérative?
Oui, avec FECOMICO, c'est quand même une bonne initiative, étant donné que nous savons que seuls on ne peut rien. Mais ensemble, nous sommes forts. Si on essaie de prendre toutes les coopératives, les mettre ensemble, là, on saura quand même, en cas de plaidoyer, faire monter les plaidoyers directement et c'est sûr que la réponse sera efficace. Et ensemble, nous pouvons nous dire que non, il y a tel problème. Là, on mêle toutes les idées ensemble et on essaie de voir comment trouver une solution. C'est que c'est quand même une fédération à encourager et nous devons marcher avec FECOMICO.
Madame Zouzou, merci.
Merci.
Ainsi prend fin Écho d'économie de ce soir. Willem Lungamba était à la prise de son, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.